Radio Kapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Conditions de détention déplorables à la prison centrale de Bounia en Ituri. Il n'y a pas de budget de fonctionnement depuis le début de l'année. Situation présentée hier au représentant spécial adjoint Bruno Lemarquis par les responsables de la prison. Situation similaire dans le Maniema où les détenus de la prison de Kalima sont incarcérés dans des conditions déplorables, alerte une ONG de défense des droits de l'homme sur place. Et puis, plusieurs agents de la régie des voies aériennes RVA, interpellés hier à Kinshasa, reprochaient d'avoir retardé l'atterrissage de l'avion du chef de l'État à l'aéroport international de Ndjili. Le président du conseil d'administration de la RVA évoque une coupure d'électricité qui a perturbé le fonctionnement de la tour de contrôle. Trifon Kinke Mulumba est l'invité de ce journal. Heureuse de vous retrouver, madame, messieurs, bonjour. Commençons par l'Ituri, la prison centrale de Bounia, au bord de l'asphyxie. Depuis janvier 2025, aucun budget de fonctionnement n'a été alloué. Les responsables de la prison ont exposé cette réalité hier jeudi au représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, qui était en visite sur place. Le point avec Jean-Claude Loki.
Dans l'enceinte de la prison centrale de Bounia, les besoins sont criants. Son directeur intérimaire parle d'un retard de subsides qui empêche la prise en charge correcte des plus de 2000 détenus que compte la prison, alors que sa capacité d'accueil n'est que de 500 places. À ce problème s'ajoute le retard dans le traitement des dossiers judiciaires qui entraîne une hausse des cas de détention préventive prolongée. Bruno Lemarquis, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, promet de faire remonter ses doléances aux autorités de Kinshasa.
Le gouvernement national a décidé de construire 11 nouvelles prisons, dont une à Bounia. Il faut que maintenant les ressources soient mises à disposition pour que ces plans à long terme puissent être mis en œuvre. Des plaidoyers qu'on va continuer à faire de manière très constructive au niveau de Kinshasa, au niveau du ministère de la Justice notamment.
Les responsables de l'établissement ont toutefois salué le soutien de la MONUSCO qui a permis, entre autres, la construction de murs de clôture, des pavillons pour femmes et mineurs, d'une salle d'audience et d'hospitalisation, ainsi que l'installation de caméras de surveillance et la mise à disposition d'une ambulance, ce qui a permis de mettre fin aux évasions régulièrement enregistrées dans cette prison dont les taux d'occupation est de 4 fois supérieur à sa capacité d'accueil. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Situation similaire dans la province du Maniema. Les détenus de la prison de Kalima sont incarcérés dans des conditions déplorables. C'est l'ONG de défense des droits de l'homme Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité qui tire la sonnette d'alarme. Selon le responsable de cette ONG, les détenus manquent de nourriture et n'ont pas accès aux soins médicaux. Ramazani Alimasi Samuel appelle à une intervention urgente des autorités pour réhabiliter et équiper cette prison afin d'améliorer les conditions de détention. Il est joint par Florence Kizalunga.
Les conditions de vie des détenus dans la prison centrale de Kalima sont très mauvaises, constituant une punition cruelle et injustifiée, dangereuse pour la santé et même pour la vie des détenus. Les inculpés sont soumis aux mêmes conditions que les condamnés. Il y a 6 latrines en très mauvais état, 2 barza impropres, un bureau pour le directeur de la prison sans porte ni fenêtre, une cuisine et un dépôt sans fonction. La source d'eau potable inexistante. Pour trouver une eau impropre, il faut faire 2 kilomètres. Les bureaux administratifs non équipés en mobilier, les détenus dorment à même le sol et classés en 2 cellules. Les services médicaux inexistants, la prise en charge des prisonniers serait inexistante. Cette prison ne renferme aucune condition pouvant abriter les détenus. Plusieurs détenus restent plusieurs jours sans comparaître suite au dysfonctionnement du tribunal de paix et du tribunal de grande instance à Kalima. Des agents de services pénitentiaires ne sont pas payés. C'est pourquoi il y avait eu 3 évasions à répétition ces derniers temps dans cette prison.
En réponse, le gouvernement provincial du Maniema a dit reconnaître les conditions de détention difficiles dans les maisons carcérales de cette province. Selon le ministre provincial de la Justice, Kasongo Amuya, les autorités provinciales suivent de près la situation et y travaillent avec l'appui du gouvernement central. Le ministre provincial de la Justice au Maniema explique la situation au micro de Florence Kizalunga.
Le gouvernement provincial, par rapport à la situation de la prison de Kalima, comme celle de Kibombo, de Kasongo, de Punia et même celle de Kailo ici, voisine, qui se trouve dans un état dont indescriptible, nous vous disons que le gouvernement d'ailleurs a planifié pour cette année beaucoup de choses pour améliorer les conditions carcérales au Maniema. Effectivement, comme vous le savez, que la justice n'a pas été décentralisée, la justice est déconcentrée. Cela voudrait dire que c'est avec la conjonction du gouvernement national et provincial que nous entendons améliorer dans son ensemble les conditions de détention dans les maisons carcérales au Maniema. Dans l'entretemps, nous faisons ce que nous pouvons. Et déjà, je vous ai dit tantôt que la prison de Kalima, des situations idoines sont en train d'être trouvées. Et peut-être plus tard, quelques jours ici, vous allez apprendre que des conditions ont été sensiblement améliorées.
Pour sa part, un responsable de l'administration pénitentiaire au sein du ministère de la Justice à Kinshasa confirme que ces mauvaises conditions de détention s'observent dans quasiment toutes les prisons du pays. Selon lui, le non-décaissement des fonds par le gouvernement central depuis janvier 2025 a entraîné l'arrêt des livraisons par les fournisseurs de nourriture et des médicaments impayés depuis 9 mois. Cette rupture des stocks aggrave la malnutrition et augmente les décès dans les prisons. Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, à Kinshasa, plusieurs agents de la régie des voies aériennes RVA ont été interpellés hier. Il leur est reproché d'avoir retardé l'atterrissage de l'avion du chef de l'État à l'aéroport international de Njili. Le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkei Mulumba, reconnaît cet incident qu'il attribue à une coupure d'électricité qui a perturbé le fonctionnement de la tour de contrôle. Trifon Kinkei Mulumba explique la situation. Il est joint par Blaise Ndongalamaya.
Je sais que à 2h30, il y a eu coupure d'électricité et c'est la SNEM. Cela arrive fréquemment. La RVASA est équipée de groupes électrogènes. Ben, il faut savoir les activer et attendre tout ça pour le balisage et la tour de contrôle. Quand il s'agit, comme on le sait, de l'avion présidentiel qui doit atterrir, il faut plus de mesures de sécurité. Et la RVA doit s'y mettre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bien, le conseil d'administration a mis en place une commission d'enquête. Nous attendons le résultat. Est-ce qu'il y a eu manque de communication avec la tour de contrôle? Mais il est vrai que faire retarder l'atterrissage d'un tel vol, même d'une dizaine de minutes, d'après ce que je sais, pose un problème. Cela montre qu'il s'agit d'un incident majeur.
Direction le Nord Kivu, la localité de Kasopo, secteur d'Osso Banyungu, dans le territoire de Masisi, déserté par ses habitants. Des violents combats y opposent depuis 2 jours les rebelles du M23 à une coalition des groupes locaux d'autodéfense. Cette situation a contraint de nombreuses familles à trouver refuge dans la forêt et dans divers villages relativement éloignés de la zone des hostilités. Le récit de Ronéline Tibonera.
Malgré une accalmie relative observée jeudi à la suite des violents affrontements qui ont marqué toute la journée de mercredi, personne n'est retourné au village de Kasopo. Selon des sources bien informées, tous laissent penser que les combats pourraient reprendre à tout moment. Mercredi, les rebelles du 1-23 se sont affrontés aux volontaires pour la défense de la patrie, composés d'éléments issus du mouvement d'action congolais MAC, de l'APCLS et du groupe Uhuru. Les deux camps ont eu recours à un arsenal lourd dans une ultime tentative de prendre le contrôle total de la localité. Des sources situées dans les secteurs d'Osso Banyungu confirment la progression des Wazalendo qui ont réussi à reprendre 2 localités sur les 4 auparavant sous contrôle de la rébellion du M23. Ce cycle de pertes et de reconquêtes des territoires se poursuit depuis le mois d'avril dans cette région. Chaque camp cherche à s'assurer la maîtrise de cette zone stratégique qui constitue un point de jonction entre plusieurs axes reliant les territoires des Masisi et des Walikale. Cette configuration explique la persistance des combats dans cette zone depuis plusieurs mois. Conséquence, les enfants ne vont plus à l'école. Les agriculteurs ont déserté les champs et le commerce est totalement paralysé, déplorent les notables locaux.
Par ailleurs, toujours au Nord Kivu, les activités socio-économiques sont restées paralysées hier dans la ville de Butembo. C'est à la suite d'un appel à la ville morte lancé par des mouvements citoyens pour dénoncer la montée de l'insécurité dans les territoires de Lubero et de Beni. Marc Marofimbo, reportage.
La quasi-totalité des activités socio-économiques sont restées paralysées jeudi dans la ville de Butembo au Nord Kivu. C'était pour répondre à l'appel à observer une journée ville morte décrétée par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression. Ces derniers affirment agir ainsi pour dénoncer la montée de l'insécurité dans les différentes entités des territoires de Lubero et de Beni. Insécurité caractérisée par des attaques fréquentes des rebelles des ADF. Rien que pour cette semaine, disent-ils, plus de 100 civils ont été tués par ces rebelles dans ces deux territoires. Ces jeunes demandent aux forces conjointes FRDC-PDF d'élargir les opérations militaires dans toutes les zones sous menace des ADF pour prévenir et empêcher de nouvelles attaques contre des innocents. Cependant, la société civile déplore les dégâts matériels enregistrés aux endroits où ces jeunes ont érigé des barricades à travers la ville de Butembo. Un jeune a même été blessé par balle à printemps. C'était pendant que la police intervenait pour rétablir l'ordre. En début d'après-midi, la police avait déjà dégagé certaines barricades vers la partie nord de la ville où toutefois la circulation demeurait timide. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, après les récents actes de vandalisme au stade des martyrs de Kinshasa, l'Union des jeunes congolais pour le changement, UJCC, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle la jeunesse congolaise à plus de responsabilité, de patriotisme et de respect des biens publics. Dans un message publié hier, le vice-président de l'UJCC, Rémi Flam Mangwamba, condamne fermement ces débordements survenus après la défaite des Léopards face aux Lions de la Teranga du Sénégal. C'était mardi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de football, le vice-président de l'Union des jeunes congolais pour le changement interpelle les partis politiques, la société civile et les églises à intensifier la sensibilisation des jeunes à l'éducation citoyenne. On écoute Rémi Flam Mangwamba dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Les jeunes actuels doivent se rendre compte qu'il est un espoir de ces pays. Il est l'incarnation du changement. De plus qu'il ne prend pas conscience à aimer les pays. Je reviens encore par rapport à l'acte qui vient de se passer au stade. C'est pas aimer les pays. Donc, soyons conscients et prenez nos responsabilités. Et ces actes-là, nous les condamnons. Mais maintenant, prochainement, il faut monter des stratégies comment empêcher toutes ces choses qui arrivent. Mais aux jeunes, c'est manque de patriotisme. Que ce soit nous, les organisations de la société civile, que ce soit les partis politiques, de tels actes doivent nous interpeller pour dire que nous avons un grand travail à faire. Comment repenser encore la jeunesse? Il faut vraiment une meilleure éducation citoyenne. Ça doit entrer dans des partis politiques, dans des églises, dans des familles, partout, parce que le mal est trop profond. Et puis, c'est tout un processus.
À présent, suite et fin de notre série de reportages sur le chemin de la croix pour obtenir un passeport, payer en ligne, prendre rendez-vous, attendre des mois, la nouvelle procédure pour obtenir le passeport en RDC devait être plus simple. Elle est en réalité un véritable calvaire pour de nombreux demandeurs. C'est un reportage signé Michel Kifindangoy.
La procédure est claire sur les papiers. Mais dans la réalité, c'est un parcours semé des embûches. Pour obtenir le passeport, il faut d'abord payer en ligne, un processus parfois complexe. Ensuite, prendre un rendez-vous pour l'enrôlement. Et c'est là que le calvaire commence. Témoignage de Jean-Luc.
Ah, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué avec vos trucs ici. J'ai essayé de prendre rendez-vous, mais les sites ne marchent jamais. J'ai dû y aller plusieurs fois pour y arriver. Et une fois sur place, la file est interminable. C'est fatigant, c'est vraiment fatigant.
Mais une fois la capture faite, l'attente se prolonge. Pour récapituler les difficultés, 126 000 dossiers bloqués, une chute de production de 5 000 à 500 passeports par jour et une nouvelle procédure numérique compliquée. Ces dysfonctionnements ont un impact direct sur la vie des Congolais. Témoignage.
Je ne sais pas si je verrai un jour mon passeport. Je fais tout. C'est une grande déception. On sait ça, abandonné par son propre pays. Parce que normalement, les choses ne pourraient pas marcher comme ça.
Seul l'assouplissement de la procédure en ligne des demandes de passeport et le renforcement de la capacité de production pourraient améliorer la situation.
Actualité internationale.
Le Ghana décide d'accueillir des ressortissants ouest-africains expulsés des États-Unis. 14 de ces personnes sont déjà arrivées dans le pays, annonce le président ghanéen John Dramani Mahama. Le président ghanéen explique que ces ressortissants n'ont pas besoin de visa pour venir au Ghana, ce qui facilite leur arrivée. Il a également indiqué que le Ghana s'était entendu avec les autorités américaines pour accepter des expulsés des pays tiers dans le cadre de la politique migratoire stricte de Donald Trump.
L'invité.
Plusieurs agents de la régie des voies aériennes, RVR, ont été interpellés hier jeudi à Kinshasa. Ils leur ont reproché d'avoir retardé l'atterrissage de l'avion du chef de l'État à l'aéroport international de Ndjili. À Radio Kapi, le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinke Mulumba, reconnaît cet incident qu'il attribue à une coupure d'électricité qui a perturbé le fonctionnement de la tour de contrôle. Pour ce mandataire public, il est impératif de réfléchir à la modernisation de cet aéroport stratégique. Trifon Kinke Mulumba s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Kinke Mulumba.
Bonjour cher monsieur.
Quelle est la situation qui prévaut actuellement à l'aéroport international de Ndjili?
Il n'y a pas de problème que je sache. Je sais que à 2h30, il y a eu coupure d'électricité et c'est la SNEM. Cela arrive fréquemment. La RVASA est équipée de groupes électrogènes. Ben, il faut savoir les activer et attendre tout ça pour le balisage et la tour de contrôle. Quand il s'agit, comme on le sait, de l'avion présidentiel qui doit atterrir, il faut plus de mesures de sécurité. Et la RVA doit s'y mettre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bien, le conseil d'administration a mis en place une commission d'enquête. Nous attendons le résultat. Est-ce qu'il y a eu manque de communication avec la tour de contrôle? Mais il est vrai que faire retarder l'atterrissage d'un tel vol, même d'une dizaine de minutes, d'après ce que je sais, pose un problème. Cela montre qu'il s'agit d'un incident majeur.
Confirmez-vous qu'il y a eu exactement arrestation parmi les agents cadres de la RVA?
J'ai eu au téléphone le commandant de l'aéroport, M. Vicky Lundula. J'ai eu également au téléphone le directeur général. Ils m'ont dit qu'il y a eu en effet une ou deux personnes, trois, qui ont été arrêtées. Mais je ne connais pas la suite. Est-ce que ces personnes ont été libérées? Je n'en sais rien.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tels incidents dans les jours à venir?
Écoutez, c'est d'abord la modernisation des aéroports. Et ça, c'est absolument important. On a des aéroports qui datent d'il y a 50 ans et il faut changer absolument. Si vous regardez Ndjili, l'aéroport de Ndjili, c'est un vieil aéroport. L'électricité de la SNEL est souvent partie et il y a une urgence absolue. Voilà.
Cet incident relance aussi les débats sur les recettes des GoPass. Est-ce qu'avec les recettes que vous mobilisez, vous ne pourrez pas faire face à certains besoins?
C'est la question qu'il faut poser aux gestionnaires au quotidien. Je suis le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration a une mission précise, c'est prendre les décisions, suivre l'exécution de ces décisions par la direction générale, faire le contrôle de l'entreprise. Et ceci n'est pas toujours facile, vous le savez très bien, entre celui qui contrôle et celui qui gère au quotidien, malheureusement. Mais la situation à la RVA n'est pas si spéciale qu'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à régler ces questions-là.
Cette situation a créé une certaine peur parmi les passagers. Quel message lancerez-vous aux passagers qui voudraient bien voyager via l'aéroport international d'Ndjili?
Bon, écoutez, il n'y a aucune crainte à avoir. Moi, je peux vous assurer qu'il y a un mois, j'ai vécu la même situation à l'aéroport des Zaventem à Bruxelles. L'avion SN Bruxelles a dû refaire les gaz simplement parce que l'espace, le tarmac où devrait se poser notre avion était occupé par un autre avion. On a dû passer 40 minutes au-dessus de la Belgique avant d'atterrir. Donc des incidents comme ça sont fréquents, mais il faut, quand il s'agit d'un avion de haute sécurité, comme celui du président de la République, monter en puissance en termes de mesures de sécurité. Je ne peux pas accepter que, par exemple, le groupe électrogène n'ait pas été activé à temps et donc que le système de balisage n'ait pas fonctionné. Mais il n'y a aucune crainte à voir. Je pense que l'aéroport international d'Injili, en attendant que le processus de modernisation puisse être enclenché, il y a des avions qui se posent et qui décollent sans problème.
Monsieur Kinkey Moulumba, nous vous disons merci.
Je vous en prie.
Kinkey Moulumba Trifon, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes RVA, répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Par ici prend fin ce journal mis en onde par Pierre Diassinois. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.